Le journal présenté par Antoine Maret.
Bonsoir. La moralisation de la vie publique devant les députés, c'est la suppression de la réserve parlementaire qui provoque le plus de débats dans l'hémicycle. Les parlementaires de l'opposition dénoncent une hypocrisie. Nous reviendrons sur le cas de cette mère de famille française arrêtée il y a 2 semaines à Mossoul par l'armée irakienne avec ses 4 enfants. Ses proches réclament son rapatriement, mais sa situation s'apparente à un véritable casse-tête juridique et diplomatique. C'est ce que nous dira l'avocat de la famille. Dans l'actualité internationale, cette nouvelle attaque en Afghanistan. Une voiture piégée qui a explosé ce matin dans un quartier chiite de Kaboul. Le bilan est très lourd, au moins 26 morts. Et puis la nouvelle a de quoi surprendre. Ryanair s'intéresse au rachat d'Alitalia. Mais la compagnie low cost pose ses conditions. Nous verrons lesquelles dans ce journal. Les députés ont examiné cet après-midi à l'Assemblée nationale les 2 projets de loi sur la moralisation de la vie publique. Le texte revient de sa navette du Sénat et parmi toutes les mesures restant à débattre, la réserve parlementaire qui fait beaucoup parler d'elle. La semaine dernière, les députés réunis en commission de loi ont voté pour la suppression de cette enveloppe de 130 000 euros par an et par député. Cette somme laissée à la discrétion des élus leur permettait entre autres de pouvoir subventionner les associations et les collectivités locales de leur choix. Si dans la majorité les députés approuvent cette suppression, les partis d'opposition jugent la mesure à la limite de l'hypocrisie. C'est ce qu'a constaté à l'Assemblée nationale notre reporter David Ravier.
Pour le gouvernement, la suppression de la réserve parlementaire fait partie des avancées à mettre en place pour créer plus de transparence. Pour la garde des Sceaux Nicole Belloubet, il n'est pas question de garder une habitude qui transgresse la Constitution.
La Constitution ne prévoit pas que les parlementaires puissent disposer d'une dotation budgétaire. Et d'ailleurs, l'article 40 traduit une idée assez proche en interdisant les initiatives parlementaires qui soient génératrices de dépenses pour les deniers publics.
Mais l'opposition juge la mesure populiste et inégale puisque la réserve ministérielle qui fonctionne sur le même modèle, elle, n'est pas mise en cause. Jean-Luc Mélenchon déplore que la suppression de la réserve parlementaire condamne tous les députés alors qu'ils sont une minorité à être fautifs.
Cette loi est un acte de facilité qui prétend que le problème de la confiance du public, c'est-à-dire du peuple, dépendrait des mauvais comportements des parlementaires. Eh bien, je n'hésite pas à vous dire, c'est une honte que de le prétendre ou de le sous-entendre. C'est une honte qui participe à un populisme anti-parlementaire grossier et vulgaire. Si vous voulez poursuivre les corrompus, traquez les corrupteurs. Ils ne sont pas si difficiles à trouver, car ils sont peu nombreux et ne se cachent même pas de leurs activités.
Les motions de rejet déposées par l'opposition dans la foulée n'ont pas été acceptées. La réserve parlementaire est donc bel et bien enterrée, mais cette suppression ne sera effective qu'en 2024.
Reportage signé David Ravier. Cela fait maintenant 2 semaines qu'une jeune mère de famille française est détenue en Irak. Cette femme de 27 ans avait été arrêtée à Mossoul par les forces antiterroristes irakiennes avec ses 4 enfants. Elle avait quitté la France fin 2015 avec son mari et ses enfants pour rejoindre la Syrie. L'homme aurait été tué. Et les proches de cette femme demandent son rapatriement, mais sa situation est complexe, tant d'un point de vue juridique que diplomatique. C'est ce que souligne l'avocat de la famille, maître Vincent Brengart. Il est interrogé par Florence Turme.
Les textes sont parfaitement silencieux sur le procédé à employer lorsque vous avez des personnes qui expriment leur volonté de revenir sur le territoire national. Est-ce que on doit considérer finalement que quasiment les écarter des cités françaises alors même qu'ils en ont la nationalité? Nous pensons que non. Vous avez un certain nombre de dispositions, non seulement en droit national mais aussi en droit international, qui prévoient une protection quasi absolue pour les mineurs, mais aussi une protection pour les majeurs qui bénéficient, de la même manière que pour les enfants, d'une protection consulaire. Et on voit bien que dans ce dossier, évidemment, la question qui se pose, c'est aussi une question de souveraineté de l'État irakien, une question de souveraineté qui peut faire échec à une remise rapide de la mère. Mais en revanche, juridiquement, rien aujourd'hui ne justifie le maintien des enfants en zone irakienne. Aucun texte de droit ne permet de maintenir des enfants, surtout lorsqu'ils sont mineurs, comme c'est ici le cas, contre leur consentement et contre aussi le consentement des membres de leur famille.
Emmanuel Macron assistera à l'hommage au Père Hamal qui aura lieu mercredi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'agira d'une messe célébrée dans l'église par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera également présent lors de cette cérémonie. De même qu'Anouar Bibèche, qui est le président du Conseil français du culte musulman. Le père Jacques Hamel avait été assassiné il y a un an en pleine messe par deux djihadistes. Dans l'actualité internationale, cette nouvelle attaque en Afghanistan après le massacre perpétré hier dans un hôpital du centre du pays, c'est une voiture piégée qui a explosé ce matin dans un quartier chiite de Kaboul. Le bilan est très lourd, au moins 26 morts. Sur place, le récit de Sonia Ghezali de RFI.
Il est 6h45 quand l'explosion a eu lieu. Dans la rue, les commerçants ont déjà ouvert leurs échoppes. Des étudiants marchent vers l'université. La circulation est fluide. Une voiture s'élance soudainement vers un bus avant d'exploser. Il se trouve au premier barrage de sécurité qui mène à la résidence d'un chef politique appartenant à la communauté Hazara. Coup du hasard ou non, difficile d'en avoir la certitude. Les talibans qui revendiquent l'attentat affirment s'en être pris à un véhicule transportant des agents des services de renseignement. Les autorités affirment, elles, que le bus transportait des employés du ministère des Mines. Les insurgés ont intensifié leurs attaques ces derniers jours à travers le pays, notamment dans le centre de l'Afghanistan, à Rol, où ils ont visé un hôpital sur une trentaine de personnes et prenant le contrôle d'un district, comme dans la province voisine de Faryab. L'attentat de ce matin intervient un an, jour pour jour, après un attentat suicide meurtrier contre la communauté Hazara qui manifestait dans la capitale afghane. Le cortège avait été frappé par l'organisation État islamique qui signait son premier attentat au cœur de Kaboul. La minorité religieuse avait prévu de défiler aujourd'hui en mémoire des victimes de la manifestation du 23 juillet 2016. Elle y a renoncé sous la pression de la présidence afghane qui met en cause le risque élevé d'attentats. Le pays semble s'enfoncer dans le conflit et les civils payent un lourd tribut, ce que souligne l'ONU dans son dernier rapport, avec un nouveau record atteint. Depuis le début de l'année, plus de 1660 civils ont été victimes du conflit.
Et puis la violence secoue également le Pakistan où une explosion sur un marché de Lahore a tué au moins 26 personnes et en a blessé des dizaines. L'explosion d'origine inconnue a été revendiquée par les talibans. Elle s'est produite sur une voie très fréquentée de la ville qui est considérée comme la capitale culturelle du pays. C'est un candidat assez inattendu pour la reprise d'Alitalia. La compagnie italienne est en grande difficulté. Elle a été placée sous la tutelle de l'État qui l'a mise en vente. Et Ryanair a fait part de son intérêt, sauf que la compagnie aérienne pose ses conditions. Elle souhaite notamment une restructuration drastique d'Alitalia. À Rome, les précisions de Mathilde Imberti.
La rumeur courait depuis vendredi en Italie, depuis la fin du délai de dépôt des offres non contraignantes. Ryanair, compagnie à bas coût, viserait Alitalia, le transporteur italien emblème national. Hier, le directeur général de la compagnie irlandaise l'a confirmé. Nous sommes sérieux en manifestant un intérêt pour Alitalia. La compagnie à bas coût lance non seulement une offre, mais pose ses conditions. Elle la maintiendra, prévient-elle, sous réserve d'une restructuration du transporteur et d'une rupture de ses liens avec l'État italien. Au bord de la faillite, Alitalia a été placé sous administration extraordinaire début mai après le rejet par son personnel d'un plan qui prévoyait 1700 suppressions d'emplois. Les trois commissaires en charge du dossier et le gouvernement privilégient aujourd'hui le rachat total de la compagnie et Alitalia à ce stade a reçu d'autres offres, notamment d'Etihad Airways et d'EasyJet. Prochaine étape, en octobre, lorsque les offres contraignantes cette fois seront présentées, Ryanair devra dévoiler ses intentions. La compagnie irlandaise, qui est devenue la première en Europe en nombre de passagers, avec une percée notable en Italie, 36 millions de voyageurs ont fait confiance aux avions bleus et jaunes cette année pour les transporter dans la péninsule.
Coup de théâtre en Pologne, alors qu'il ne suffisait plus que d'une signature du président pour valider la réforme de la justice voulue par le parti conservateur. Andrzej Duda a mis son veto à deux des trois textes proposés. Le chef de l'État mis sous pression après des manifestations qui ont rassemblé des dizaines de milliers de Polonais ce week-end. Eh bien, le chef de l'État a cédé. La Cour suprême et le Conseil national de la magistrature sont donc provisoirement épargnés. Les précisions de notre correspondant Damien Simonard.
L'opposition réclamait trois vétos, le président polonais n'en a mis que deux, mais c'est déjà un petit miracle. Accusé jusqu'alors par les libéraux d'être le notaire du PiS, Andrzej Duda a expliqué avoir l'intime conviction que les réformes votées en force au Parlement ne renforceront pas le sentiment de justice dans la société polonaise. Exit la réforme de la Cour suprême ainsi que celle sur le Conseil national de la magistrature. En revanche, le chef de l'État va promulguer la loi sur les tribunaux de droit commun qui autorise le ministre de la Justice à nommer ou remplacer tous les présidents des tribunaux. Andrzej Duda ne renonce pas pour autant à la réforme de la justice, mais il veut la rédiger lui-même après consultation avec tous les milieux concernés. La présidente de la Cour suprême a déclaré qu'il s'agit d'un très bon signe pour l'avenir et l'opposition libérale a salué un acte de courage du président. Pris de court, le PiS a tenu en urgence une réunion de crise. Son leader Jarosław Kaczyński a refusé tout commentaire, mais plusieurs ministres ne décolèrent pas après la décision du président.
Demain, après une matinée pluvieuse dans les terres, le temps va se dégager progressivement au cours de la journée, mais quelques pluies persisteront. Les températures vont rester bien inférieures aux normales saisonnières. Il fera 18 au Havre, 22 à Paris et 28 degrés à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal demain à 7h, il vous sera présenté par Anne Lorchois.